Bonjour à toutes et tous, vous êtes en direct sur FM+. Je suis avec Rija. Bonjour Rija, tu vas bien?
Oui, et toi?
Ça va, ça va. Avec Camille.
Salut, salut.
Ça va.
Tu vas bien, Alix?
Oui. T'as une annonce à faire?
Une annonce tout de suite, non, ça va.
Ça va?
Ouais.
Cherche pas un appartement?
Si, toujours, mais j'ai d'autres cartes en main pour l'instant, donc je vais jouer celle-là.
Et... Tu ne dépends pas que de la radio pour trouver
un
contributeur de la radio.
C'est ça.
Donc, c'est un bon support peut-être, hein.
Dis, la radio,
le réseau,
ouais, le réseau,
pas mal, le réseau, c'est ce qui marche, hein, souvent, généralement.
C'est ce qui marche.
Faites-vous des potes qui ont des trucs sympas à vous proposer.
Et je suis aussi avec Jean-Marie, qui est-ce?
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va bien, la mer va bien.
Ah,
si la mer va bien, alors
tout va bien.
Tout va bien.
Elle est belle.
Elle est belle, la mer?
Oui.
Parce qu'il fait beau.
Elle est belle, hein.
Ah oui, oui, hier, je l'ai vue, elle était magnifique.
Ouais.
J'adore avoir des nouvelles de la mer.
C'est vrai. Vous étiez où?
Ah bon, j'étais,
j'étais
du côté des Arresquiers, par là.
Ah, c'est joli. Hein,
ouais. Ouais, c'était magnifique. Hein. Il y avait des lumières extraordinaires. Non, on a eu une chance formidable par rapport aux Bretons, quand même, qui ont beaucoup souffert, quand même.
C'est vrai que la tempête...
Les Bretons et la Gironde, quand même, enregistraient une vague de 21 mètres. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça.
Je crois que même le Pas-de-Calais, hein.
Et le Pas-de-Calais, c'était la pluie, plutôt.
C'est la pluie, ouais. Et ça me permet d'introduire comment on s'habille aujourd'hui.
Vrai, oui.
C'est vrai, mais oui, tout à fait.
Tu peux me piquer ma formule, vas-y.
Oui, grave. Bon, je suis une pâle copie de Rija. Alors, le matin, comme vous l'avez vu, il fera ensoleillé, 14 à Béziers et Montagnac, 12 à Lodève, 13 à Saint-Mathieu, 12 à Lunel et 11 au Vigan. L'après-midi, il fera 16 à Agde et 7. Bon, j'ai un peu honte de le dire quand même, 16 degrés.
C'est assez, en effet.
C'est engagé.
C'est
hein.
Très doux, donc.
14 à Onzac. Et puis à la nuit tombée, entre chien et loup, les nuages apparaîtront. Il fera moyenne 12 degrés.
Entre chien et loup, ça veut dire quoi cette expression?
C'est quand le soleil se couche.
Au crépuscule.
Au crépuscule, ouais.
Ok.
Je crois que c'est ça.
D'accord.
Et... tu fais des... Rija qui fait des grands signes.
Oui,
que se passe-t-il?
On a des invités surprises en plus aujourd'hui. Donc,
Je vois pas.
Et on vous...
Bonjour.
On est habitué maintenant à la porte du studio qui s'ouvre en pleine émission. Et ça fait de la bonne compagnie. Ça fait plaisir. Mm. Installe-toi, t'inquiète. Mets-toi à l'aise surtout.
Et du coup, on va pouvoir parler des saints du jour.
Oui.
Exactement. C'est la saint, quoi à votre avis?
Je sais pas, j'ai pas regardé.
La Saint Jean-François.
Je te l'ai dit hier en plus.
Moi j'avoue,
je t'abuse. La Sainte-Cécile. Et c'est un peu ma fête du coup parce que mon deuxième prénom c'est Marie-Cécile.
Mais non, bonne fête.
Bonne fête.
Elle est connue pour être qui est Sainte-Cécile?
Mais qui est Sainte-Cécile?
C'est la protectrice des fanfares.
Oui.
Elle a
la réputation d'être la patronne des musiciens.
Eh ouais.
Mais sa vie recèle de plus de mystères. Issue d'une grande famille de Rome, Cécile Yegg, elle aurait fait le vœu de virginité et convaincu son mari Valérien de la respecter en l'assurant qu'un ange veillait sur elle. Donc c'est d'après les actes de Cécile. Son mari s'étant converti aurait vu comme elle l'ange protecteur. Mais le préfet de Rome, irrité par cette conversation, condamne à mort Valérien en 177. Interpellée dans sa maison quelques jours plus tard, Cécile est à son tour martyrisée. La sainte est célébrée le 22 novembre. Les actes racontent qu'en prison, elle chantait, dans son cœur étant secret, les louanges de Dieu. Une mauvaise interprétation du texte l'a fait passer pour une musicienne. Et en fait, la patronne est musicien. La cathédrale d'Albi, dans le Tarn,
c'est
lui est consacré.
C'est joli,
Albi. C'est joli.
Plus grande cathédrale d'Europe. Il faut l'appeler.
Pour passer les vacances là-bas, c'était super.
Ah ouais.
Préparé, c'est plein, c'est bien vert. C'est
après,
bien
c'est pour moi, c'est vraiment les villes qui sont complètement fait bouffées par les TGV, etc., qui sont complètement endormies, tu vois.
Ah ouais.
Genre un peu comme.
Très dur d'accès, ouais. Tu veux dire.
Limoges.
Aussi, ouais. Mais faut prendre deux TER. Hein,
pour aller
à partir
à
de Toulouse. Hein.
Ouais. Non mais c'est vrai, c'est des villes qui sont fait complètement bouffées par les métropoles, quoi. Tu vois.
Même si je. C'est pas cool. Pourtant, c'est magnifique, super beau.
Quoi?
Toulouse, c'est une métropole?
Oui, Toulouse, c'est une métropole, mais tu vois, c'est comme à Lunel, ou enfin, tu vois, c'est genre de ville.
C'est une petite commune,
un
quoi.
Un peu en Bédarieux.
En dessous, ouais.
En écriture,
ou Bédarieux.
Bédarieux, ouais. Ouais, non, je compare un peu fort, en vrai.
C'est faux.
Non, mais tu vois, les villes qui n'ont pas accès directement au TGV, qui du coup.
Ils sont obligés de faire.
Du coup,
ils sont enclavés,
quoi. Enfin,
ils
deviennent complètement enclavés. Tu vois, c'est ça le.
Mais finalement, il y a peut-être que le tourisme qui marche dans ce genre de.
Ouais, et puis, mais vu que t'es pas accessible au TGV, est-ce que le tourisme marche? Enfin, tu vois.
Tu vas à vélo?
Tu vas à vélo à Albi, ouais, tu t'arrêtes à Toulouse et tu vas à vélo.
Là, c'était une grande voie de passage, Albi, dans le temps. Mais il y a une cathédrale magnifique.
Bah oui, c'est la cathédrale d'Albi, qui est consacrée absolument à Sainte-Cécile.
Et voilà, qui a un triptyque assez célèbre, je crois, de peinture ou de tapisserie, je ne sais plus, sur l'Apocalypse, non, quelque chose comme ça.
Peut-être.
Oui. Oh, il y a du monde qui passe par Albi, quand même.
Ouais.
Oui.
Une plaque tournante. Ouais. Et du coup, ça me permet de rebondir sur les journées mondiales.
Mondiales.
Mais en fait, il n'y en a qu'une.
Pas mondiale par brise.
Un peu dégoûté, il n'y en a qu'une seule.
Il n'y en a qu'une seule, ok.
Ouais. C'est la journée mondiale, la semaine européenne, pour être précise, de réduction des déchets. Réduire la production de déchets de chaque citoyen, tel est l'enjeu de la semaine européenne, initiée en France par l'ADEME, Agence de l'environnement, de la nature et de l'énergie. Donc, c'est un établissement public qui a pour mission de favoriser la protection de l'environnement et les économies d'énergie. Moi, la question qui m'interpelle, c'est comment réduire des déchets lorsque nous ne sommes pas acteurs de la production. Parce qu'ils disent réduire notre production, mais est-ce qu'on produit vraiment des déchets ? On a eu ce débat hier. Jamais oui, si on ne produit pas.
Le mot production.
On consomme. Mais on ne peut pas produire des déchets, tu vois.
Mais est-ce qu'on...
C'est pas nous qui produisons un emballage plastique, tu vois.
Non, c'est sûr.
C'est vrai. Mais indirectement, est-ce que l'on ne produirait pas par le fait que l'on consomme ?
Ouais, mais ça, c'est toujours le jeu de savoir si t'es acteur ou spectateur. Mais pour moi, ça se joue à plus grande échelle, ça. L'écologie. Ouais. C'est pas à échelle individuelle que tu peux sauver...
Jalila, c'est parti, première intervention.
Oui, elle a envie de réagir. Jalila, bonjour. Effectivement, si, on a chacun un rôle à jouer là-dedans. Je sais qu'il existe de plus en plus de surfaces où on n'a pas d'emballage directement, sans parler d'acheter directement au vrac.
Ouais.
Mais de plus en plus de surfaces qui ne proposent pas ça. Du coup, effectivement, le panier est beaucoup moins lourd et en même temps, il y a beaucoup moins de déchets.
Ouais.
Et après, on peut choisir aussi ses aliments et voir effectivement ce qu'on peut consommer et comment on peut redistribuer tout ça. Parce que effectivement, si on fait le tri, moi je vois les poubelles de tri, elles sont beaucoup plus importantes que les poubelles de déchets naturels, d'aliments, tout ça. Donc je pense qu'on peut tous avoir un petit rôle là-dedans, en faisant attention, en étant conscient.
Ouais, mais la grande transformation, elle se jouera pas à échelle individuelle, mais à échelle...
Ça commence à rentrer dans les mœurs. Effectivement, il y a beaucoup de pays qui sont en avance là-dessus, comme l'Allemagne, comme d'autres. Mais c'est vrai que voilà, c'est des habitudes à prendre, en fait. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Mais quand on voit tout ce qui peut être déchet dans la nature, effectivement, et qu'elle
après, quel est le rôle de l'État, est-ce qu'on est... Enfin, quelle place doit adopter l'État aussi dans cette démarche-là, quoi ?
Mais je pense que de plus en plus, maintenant, c'est vrai que de donner le pouvoir au pouvoir, à l'État et au gouvernement et aux mairies, et dire « oui, mettez à disposition des poubelles », là, j'ai remarqué, moi qui viens de la campagne, entre guillemets, des petits villages, ici, dans les grandes villes, il y a de moins en moins de poubelles. Et en fait, on oblige, j'ai vu, vous parlez de Lunel à côté, il y a Moggio. Les poubelles dans le centre de tri pour tout le monde sont très très réduites. C'est-à-dire que les gens sont obligés de se balader avec leurs poubelles toute la journée pour trouver un endroit et pouvoir effectivement se débarrasser de ça. Donc ça, oui, les pouvoirs ont quelque chose à faire. Faut produire d'autres poubelles à disposition ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense qu'en déjà en étant conscient, en apprenant ça aux enfants, il y a des choses qui peuvent se faire petit à petit au quotidien sans remettre toujours l'État ne me donne pas à disposition.
C'est pas forcément que l'État, c'est aussi de voir en fait qui pollue le plus en fait.
C'est l'homme, hein.
Ouais, je sais, mais au sein des humains, qui. Est-ce que c'est les plus grandes industries?
On va aller jusque-là, d'accord.
Tu vois, dans cette logique-là.
Ah oui, les industriels, de toute façon, sont les premiers pollueurs, les agriculteurs aussi, dans les rivières.
On les a rendus aussi tributaires, d'une certaine manière aussi. Enfin, l'agroalimentaire, enfin, moi je viens de Bretagne, en fait, c'est par nécessité, par survie, en fait. Du coup, finalement, tu te mets à produire à grande échelle, faire du rendement, etc. Parce que c'est quand tu rentres dans une logique productiviste, en fait, commerciale, enfin...
Plus commercial,
pour pas te faire écraser par tous les autres concurrents qui sont autour de toi. Enfin,
clairement. Et c'est vrai qu'on peut dire que par rapport à ces multinationales-là, malgré les politiques justement d'État de limiter tout ce qui est packaging, utilisation du plastique pour les emballages et tout, ils continuent quand même d'en vendre.
Oui, et puis souvent aussi, il y a aussi par exemple, je sais pas, j'avais suivi une polémique, le vrac en magasin, en grande enseigne, je sais plus, je crois que c'était Carrefour.
Ouais.
En fait, c'est des sachets qu'ils ouvraient et qu'ils foutaient.
Ouais, final, ça se fait de plus en plus, petit à petit. Hein.
Oui, mais en fait, au final, genre.
Mais c'est peut-être pas.
Bah, déjà, c'est plus cher, et ensuite, en final, le plastique. Enfin, ils utilisent du plastique. C'est des paquets de plastique qu'ils ouvrent pour recharger les distributeurs. Du coup, au final. Ouais. Ça pose des questions de, bah, du coup, en fait, finalement, est-ce que c'est peut-être pas... Il
faut tout réfléchir, en fait.
Ouais.
Tout le processus depuis le début.
C'est juste pour vendre plus, parce que c'est en vrac et parce que c'est bio, et parce qu'on, du coup, on achète une étiquette, on donne une illusion de mise en scène biologique, alors qu'en fait, c'est complètement factice, juste pour vendre.
Ouais, ça, malheureusement...
Bah, c'est ça, le problème, quoi. C'est pour ça que je dis, l'État doit aussi s'emparer de ces questions pour légiférer aussi.
C'est pas ce qu'ils font, hein.
Certainement, à tous les niveaux.
Non, mais oui. Voilà. Pour moi, c'est tout le fait de dire que c'est un sujet d'État, enfin...
Ah oui,
il faut que la loi encadre aussi.
Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il n'y a l'air de rien, effectivement. Je ne sais pas ce que fait le ministère de l'Environnement, on n'entend jamais.
Non, mais sur Montpellier, le tri sélectif avec les déchets biodégradables vont être mis en place normalement à partir du mois de janvier. Donc là, ça va être un sujet, en tout cas, sur lequel la radio va pouvoir, s'en saisir parce qu'il va falloir informer les gens. Mais je vais revenir sur les océans. C'est quand même un continent supplémentaire. C'est celui du plastique. Donc, sur ce sujet-là, c'est fort important. Alors, ça intéresse chacun d'entre nous parce que à chaque fois que quelqu'un prend une cigarette et jette son mégot par terre, le mégot, c'est du plastique. Mmh. Et le mégot, il va où ?
Dans la mer.
Il va à la mer. Donc, les rivières, les fleuves vont à la mer. À chaque fois, dans la rue, vous avez l'impression que l'égout, il va rester là. Ben non, il va à la mer également.
Ouais, bah oui.
Donc, en fait, il y a des gestes quotidiens auxquels il faut penser. Et puis, effectivement, on est en train de transformer les modes de contenance.
Ouais,
n'oubliez pas quand même Perrette et le Potolé. C'était des pots en terre. C'est pas si vieux que ça. Bon, après, on est passé au plastique. Sans doute, on aura d'autres formes d'emballage qui seront plus écologiques, en tout cas, et plus recyclables.
Et à propos de mer et de pirates et de mort de pirates, le 22 novembre 1718, c'était la mort du pirate Barbe Noire.
Mais non.
Voilà, pour revenir aux faits historiques. donc le 22 novembre 1718, quelque part dans l'Atlantique Nord, une bataille navale se solde par la mort d'un certain Edward Teach. Né 40 ans plus tôt à Bristol, en Angleterre, il est plus connu sous le nom de Barbe Noire. Il meurt sur l'île d'Ocracoke, dans l'étrange circonstance, et les causes de son décès ne sont toujours pas statuées.
On ne sait pas.
Voilà, nous ne savons pas. Il s'est passé beaucoup de choses les 22 novembre. Hein. Il y a aussi la révolte des canuts de Lyon.
C'est qui ça?
C'est qui?
Les producteurs de soie, non?
C'est les insurgés de Lyon qui prennent pour emblème le drapeau noir et la devise. En fait, je crois que c'est les prémices de la commune. Vivre en travaillant ou mourir en combattant, ils s'emparent de Lyon. Il s'agit de l'une des plus grandes insurrections sociales du début de l'ère des grandes industries. Et en fait, l'origine du mot canu vient de canne et du suffixe ut, qui représente le latin aurem et en France eur. Le canu est donc celui qui use de la canne, roseau, dont a été fait la canette, qui est en petit tuyau de bois qu'on charge de soie pour faire la trame d'une étoffe. C'est ça. C'est l'industrie artisanale.
C'est à Lyon, ça.
C'est à Lyon, ouais. Le 15 avril marquera la fin de la semaine sanglante à Lyon. La deuxième grande insurrection de canuts est matée dans le sang. Plus de 600 victimes sont à déplorer.
D'accord.
Voilà, et après, pour finir sur les derniers faits historiques, il y a le 22 novembre 1943, l'indépendance du Liban. En pleine guerre mondiale, les représentants de la France libre du général de Gaulle concèdent l'indépendance au Liban. En souvenir de ce jour de 1943, le 22 novembre est la fête nationale au Liban. Mais l'indépendance du pays ne sera effective que le 1er janvier 1944.
Ah.
Et c'est seulement en 1946 que les troupes françaises et britanniques quitteront pour de bon le pays.
Ouais.
22 ans plus tard.
C'est la fête nationale alors aujourd'hui ?
Ouais.
Bonne fête à vous,
bonne
les
Libanais. Fête,
oui.
Bonne fête, bonne fête à nos amis libanais, moi j'en ai, oui.
C'est vrai,
ouais.
Moi aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Libanais, une grosse diaspora libanaise partout dans le monde. C'est assez dingue.
Oui, il y a des étudiants, il y a des étudiantes aussi. Pas oublier que le Liban, c'est le pays des Phéniciens.
C'est vrai.
Les Phéniciens étaient d'immenses navigateurs.
Tout à fait.
Je l'apprends.
Oui, pareil.
Trop content, j'aime apprendre.
Des grands commerçants, ouais.
Et bon, c'est il y a quelques temps, mais bon, c'est le 17 novembre, c'est aussi les 5 ans des Gilets jaunes. Je voulais, je tenais à le dire.
Ah, tu voulais...
On les a oubliés,
les gilets jaunes. Hein, voilà.
Ils ont vite été...
Donc je voulais le dire quand même, incroyable. Pour marquer le coup.
Ah, bah, ça sent bon.
C'est le mouvement populaire qui partait du prix de l'essence initialement, mais qui permettait de revendiquer...
beaucoup de choses.
Beaucoup de choses aussi qui n'ont pas nécessairement... Enfin, qui sont toujours actuelles. Hein,
Oui, ça n'a pas changé. Hein.
Le discours n'a pas changé, mais le mouvement s'est interni.
Ouais.
Aussi,
ouais,
par
le
Covid.
Et ça, c'était le 17 novembre
2018, ouais. Ah. Ouais, je me rappelle qu'on voulait monter à Paris avec des potes. Mm. Parce qu'on avait entendu que les cheminots faisaient passer pour monter à Paris. Enfin, on arrivait à la gare.
Moi, j'étais sur les
pièges. Enfin, j'ai des potes qui devaient arriver à la gare. Moi, je devais les rejoindre après. Et au final, ils ne sont pas partis parce que... Fin...
C'était pas gratuit.
Non, pas du tout. Non, c'est les débuts du mouvement. Du coup, c'est pour ça.
Les prémices.
C'est les prémices. Et du coup, je vais finir par l'édito. Et je vais vous parler du film In the Mood for Love.
Oh.
Je connais pas.
Et ben, en fait, c'est un film, je sais pas, il revient tout le temps. Et du coup, je me dis, il faut absolument que je le voie parce que tout le monde m'en parle.
Ouais. C'est un film de Noël.
Quoi ?
C'est un film de Noël ?
De Noël, pas du tout. Non, c'est un film chinois.
Enfin, hongkongais. Je veux dire, donc voilà.
Hongkongais, ouais. Wong Far Wai, je vais écorcher, j'ai écorché, c'est certain. Donc, c'est un producteur hongkongais qui est sorti en 2000. Et du coup, je me disais, il faut absolument que je le voie parce que tout le monde m'en parle, je le vois partout, ce film. Et en fait, au final, je crois que je suis déçue.
Ah, ça,
c'est un peu comme ça, tu sais, quand tu t'attends à un film, tout le monde t'en parle et tout, tu vois partout. Et du coup, tu fais des projections et en fait, c'est pas du tout la réalité que t'avais imaginée. Donc du coup, je vais vous faire un petit résumé.
Dis-nous en plus. On est déçus pour toi, mais dis-nous
en plus. Peut-être que vous serez moins déçus que moi.
C'est ça, on sera averti, notre cerveau sera averti.
En fait, je l'ai vu il y a très longtemps et tout le monde en parle là depuis quelques temps. Du coup, je me dis, bon, je vais me le retaper. Et bon, il m'a pas transcendé non plus.
Ouais.
Donc en 1960, donc ça se passe en 1962 à Hong Kong, Madame Chan et Monsieur Cho, journalistes, emménagent le même jour dans les appartements voisins. Donc de rencontres formelles à l'émergence d'une tragédie, ils vont apprendre la tromperie de leurs conjoints respectifs et se retrouver dans leur solitude. Donc ils sont en phase, dans des appartements distincts, avec une espèce de gouvernante qui, femme de chambre qui gère les très intrusive. Et donc les deux sont trompés quoi. Et ils vont petit à petit tisser des liens, une amitié, et puis ça va basculer, forcément. Ils se côtoient un peu plus chaque jour, épris de solitude, toujours un peu plus profonde à mesure que le temps file. De misère amoureuse, ils se retrouvent et se complaisent ainsi dans leur solitude. Donc les plans sont super lents, mais vraiment très très lents. La musique aussi, bah, du coup je passerai un extrait après.
Cool.
Enfin Yann passera un extrait, plus qui est aux commandes. Et... Mais par contre, la musique, elle habite parfaitement l'ambiance du film. D'ailleurs, c'est des musiques pour la plupart occidentales.
Ouais.
Et le film, c'est comme une peinture, une toile, une fresque. Par contre, les plans sont vraiment magnifiques, hein, pour le coup. Mais c'est... Il y a une espèce d'une forme d'érotisme, de l'exotisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça se passe à Hong Kong, et du coup, il y a une espèce d'esthétique. C'est ça.
Ah.
Et moi, ça me met un peu mal à l'aise.
Il y a très peu de dialogue.
Oui, il y a très, très peu de dialogue, tout à fait. Les scènes...
Tout est dans la subtilité regards, des échanges qui se font sans mots, en fait. C'est ça qui plaît.
Complètement.
Parce que chacun peut l'interpréter, même si, effectivement, le message est...
Oui. Et puis, à la fin, là, tout est tragique, en fait. Enfin, en fait... Je ne sais rien. Non, mais tout est triste. Je ne vais pas dire ça, parce que je relis mes notes, mais je me dis que je vais spoiler, en fait. Donc, ça
très,
rien.
Très fort.
En fait, c'est un film d'état d'âme pour moi. Mmh. De tragédie narcissique, un petit peu. De tiraillement interne, de sincérité, d'absolu. C'est une tragédie, quoi, complètement. Que reste-t-il de leurs amours si ce n'est l'édifice immense du souvenir ? In the Mood for Love n'est pas simplement une fresque romanesque grandiloquente sur l'amour, mais le simple récit poétique de deux êtres perdus qui se regardent éperdument.
Mmh.
Voilà, petit jeu de mots. Assez drôle, à l'envers. Je l'avais déjà dit déjà aussi. Putain, moi, j'étais déjà tout dit. J'ai tout spoilé de ma matinale.
Mais bravo.
Bah oui.
On peut rappeler le nom du réalisateur ?
Le nom du réalisateur, je n'ai absolument pas retenu. Je vais le relire. Wong Kar-wai. Mais je ne sais pas s'il a fait trop de films après. Honnêtement, je ne sais pas du tout.
Parce qu'au cinéma, là, il n'est pas très très connu, mais c'est quelques films que j'ai vus. De gens chinois, ils sont vraiment très beaucoup dans la subtilité. Mmh. On est digne.
C'est ça. Ouais.
Pas. Il n'y a pas de tragédie avec des cris, des larmes, des.
Non, ah, si,
un petit peu, mais c'est très 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 subtil. Enfin, c'est très très c'est... finement apporté ouais, en fait.
C'est, hein, c'est à peine pas, perceptible. Hein,
c'est pas un film français, on claque des portes, on crie.
Non, non, complètement. Et du coup, ça, enfin, puis les discours, etc. Enfin, il y a une forme de pudeur aussi.
De beaucoup de pudeur.
Beaucoup, ouais. Beaucoup de pudeur, tu vois. C'est quand même.
Mais c'est dans leur culture aussi, c'est ça.
Moi, ouais, ça me rendait fou. J'avais envie de prendre mon ordi. Hein, c'est là, communiquer, s'il vous plaît. Mais bon.
C'est cute.
C'est vrai,
ça ne marche pas, je tiens à le dire, il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui...
Après, même je fonctionne comme ça aussi, hein, donc...
Non, ne rentre pas dans cette chambre seule, ne fais pas ça. C'est écrit, tout est écrit
non,
à
mais
l'avance.
Non, mais c'est pas que c'est frustrant pour le spectateur, ouais. Mais... On a envie d'y croire, ouais. Tu vois.
Mais ça veut dire que ça marche, parce que exactement, tu te plonges en fait là-dedans et tu le ressens, quoi.
Et puis ça crée une frustration aussi de la part du spectateur, enfin, ce que j'ai ressenti en tout cas. Bon, je vais pas tout dire, parce que sinon je suis la reine pour spoiler, donc je me tais, on peut envoyer les musiques.
Suspense, alors.
Suspense, merci Yann.
Attends.
FM. Vous écoutez Radio FM+. Thank you.
FM+.
Est-ce qu'on parle de Pirates de Caraïbes ou pas avec Jean-Marie Kies ce matin dans la Liberté des Mers? Et Jamila, bénévole, invitée, qu'on accueille avec plaisir.
Con.
Oui. Oui, oui, tout est bon. Ouais. Chansons, poésie, anecdotes et histoires de la mer. Depuis plus d'un an, la Liberté des Mers évoque chaque dernier lundi du mois les pirates épris de vengeance et d'inconnus comme Jeanne de Belleville, La Buse et William Kidd. Vous avez vu surgir de la brume les richissimes galions des flottes de l'or et naviguer sur la piste des trésors de l'île. En route, nous avons croisé les grandes pirogues des peuples océaniens, les Tirèmes, d'Ulysse et la terrible Moby Dick. Vous avez rencontré le vrai chant des sirènes, de nombreux chanteurs et de chanteuses, et apprécié le charme des peintres et des poètes de la mer. Bien sûr, nous nous sommes aussi penchés sur le devenir des océans, dont la bonne santé garantit la vie des terriens. Et oui, je vois que vous hochez la tête, Jean-Marie Kies. Est-ce que vous voudriez dire un peu plus?
Oui, la mer est fondamentale pour notre bonne santé, oui. Mmh. C'est des choses dont on ne parle pas souvent, mais enfin, j'étais dernièrement à des rencontres sur les océans et... Mmh. Donc, ici, dans la région. Et donc, nous avons évoqué la gouvernance de la mer et puis la protection des rivages également. Mais ce qui est rappelé souvent par les scientifiques et les spécialistes de la mer, c'est que près de 60% du CO2 est absorbé par les océans. Donc, okay. Quand on parle de ça, on parle beaucoup de la nature, de la végétation, de toutes ces choses-là. Mais il faut bien penser à la mer et que... Si la mer est en mauvaise santé, nous serons en mauvaise santé.
C'est un peu notre poumon, au final.
C'est notre poumon, notre régulateur.
Oui.
La mer, c'est elle qui...
C'est l'insuline,
qui rafraîchit,
alors, peut-être.
Qui rafraîchit ou qui réchauffe l'atmosphère.
Complètement. Ouais.
Donc, qui nous permet de vivre dans des climats où notre vie est possible. Donc, voilà, donc il y a des échanges extrêmement importants entre les eaux très froides de l'océan et les eaux supérieures qui sont très chaudes. Il y a des relations aussi très étroites entre nous et la mer à travers les rivages, bien entendu, ici, par exemple, sur
les marées
toute la
aussi.
Côte. Alors, les marées, ça, c'est en Bretagne, surtout
ça,
qu'on parle de marées. Hein, ici.
C'est vrai, moi, quand je suis arrivée à Montpellier, ça m'a choquée, parce que les marées, la marée haute, c'est super, la marée basse, c'est un enfer... Tout se calcule aussi en fonction des marées. Est-ce qu'on va à la plage? Ah, mais non, la marée est trop basse. Oh, c'est trop haut, on n'a plus de place. Enfin, tout est un peu stratégie. Alors qu'ici, non.
Oui, en fait, la mer aussi nous fabrique notre temps,
complètement.
Notre rythme, le temps.
C'est modifie évident, notre rapport au temps aussi.
Et puis la marée, parce qu'ici, il y a des petites marées quand même. Actuellement, elles sont un peu plus importantes. Mais sinon, on a cet endroit entre la mer haute et la mer basse s'appelle l'estran.
Okay.
C'est étrange.
Oui.
Et c'est un lieu que les enfants adorent, d'aller découvrir dans les mares des poissons, des crabes, avec une épuisette, aller chercher des crevettes, etc. Et cet endroit-là, effectivement, est un endroit frontière. Chacun reste chez soi, le terrien chez soi, le marin chez soi, mais de temps en temps, la mer prend le pas sur le rivage, et des fois, c'est le rivage qui prend pas sur la mer.
Oui, la nature reprend ses droits, peut-être.
Ça bouge, hein, ouais. Et ça montre le changement du monde.
Après,
la mer est toujours en changement.
Si on prend le cas de la Bretagne, moi, chez mon grand-père, du coup, il y a des maisons qui sont vraiment au bord de la falaise et qu'en fait, on sait que dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, elles vont être complètement avalées avec la montée des eaux. Quoi.
C'est fort possible. Ici, on a des cités englouties. Hein.
Oui.
Sur le rivage ici, tout près de Montpellier, on a carrément des petites villes qui sont sous la mer. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas la peine d'attirer des plongeurs qui iraient chercher je ne sais trop quoi. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut rester? Il peut rester des choses. Mais Latte, par exemple, a été un très grand port à une époque. Hein.
Latte, c'est complètement...
Latte, maintenant, est pris dans les marées.
Les marées, oui, des marécages, même Palavas aussi.
Oui, ça s'est ensablé, tout simplement. Ouais. Narbonne était un très grand port, jadis.
Ouais.
Et c'est pareil, port s'est ensablé. Alors, il s'ensable pour des raisons naturelles, il s'ensable aussi parce qu'il y a moins de monde pour l'entretenir.
Oui,
quand les chrétiens ont pris le pouvoir à Rome, ils ont en partie diminué l'esclavage.
Ouais.
Ça a donné un sale coup à l'économie, donc il y a eu des crises économiques importantes. Et il n'y avait plus suffisamment de gens pour entretenir le littoral, tout simplement.
Ouais.
Et puis, ça s'est mélangé avec des phénomènes naturels à l'époque qui ont été extrêmement puissants, des tsunamis, des catastrophes volcaniques qui ont fait disparaître certaines cités qui sont maintenant sous l'eau.
Ouais.
Et oui. Non, c'est pas triste.
Non, mais on veut dire qu'il y a, et du coup, ça veut dire qu'il y a plein de trésors.
Ah oui, en tout cas, il y a des trésors de mémoire, non, ça mais c'est certain.
Même quand pour la recherche, l'histoire ou l'archéologie, enfin des disciplines, c'est en fait, faut aller.
Ah bah actuellement, on peut pas être plus d'actualité. Hein, je veux dire, le problème du réchauffement climatique avec une montée des eaux va toucher notre rivage également. Donc selon les scientifiques, à l'horizon de 2050, c'est entre 50 cm et 1 mètre.
Mais 1 mètre, c'est des endroits où 1 mètre, c'est énorme. Hein,
voilà. Moi, je vois déjà, ça se voit déjà sur beaucoup de plages, en tout cas en Méditerranée, autour de l'île où j'habite.
Avant, en
arrivant à la plage, on pouvait marcher une dizaine, une quinzaine de mètres avant d'arriver dans l'eau. Maintenant, il n'y a plus que 2-3 mètres. Hein. Donc effectivement, il y a cette montée des eaux qui a l'air imperceptible, mais qui se voit d'année en année de plus en plus et qui reprend leur territoire. Est-ce que c'est dû qu'à la fonte des glaces?
Oui.
Aussi.
Grandement. Oui, bien sûr, Faire monter les océans. Il y a une émission qui s'appelle Catastrophe écologique ou promesse de l'océan. Il y en a une de Liberté des mers là-dessus. J'ai interrogé un océanologue assez célèbre, Gilbert Barnabé, donc qui a travaillé un peu partout, mais également ici à Montpellier. Et donc, il nous parle de ce phénomène-là. Et comment est-ce qu'on peut y réagir? C'est pas simplement en construisant des digues. Hein. Je crois qu'il faut avoir des réflexions plus approfondies. Et puis également qu'il nous parle de ce qu'on appelle la ressource halieutique, c'est-à-dire la problématique de la ressource en poissons. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a encore quelques décennies, on pêchait énormément de poissons sur les rivages, ici. Aujourd'hui, vous n'avez plus de poséidonie, vous n'avez plus grand-chose au fond, ça a été raclé. Donc on s'est éloigné petit à petit, on est allé vers les côtes d'Afrique, et aujourd'hui, la plupart du poisson qu'on peut consommer vient d'Asie, tout simplement.
Vous vous rendez compte,
on est dans les mers d'Asie. Donc on s'aperçoit là qu'il y a quand même un vrai souci et qu'il est temps de faire quelque chose. Il y a des possibilités de réagir. On n'est pas obligé uniquement d'être des prédateurs. On peut aussi, comme les agriculteurs, faire de l'agriculture marine, par exemple.
En récupérant déjà tout ce qu'il y a en algues, parce qu'en Asie, ils visent effectivement pour la nourriture.
Après, il y a aussi un autre phénomène, je pense à la mer, mais par exemple les algues vertes. Le phénomène des algues vertes qui colonisent des plages, mais des plages entières.
Alors, est-ce que c'est celles dont on parle en Bretagne et qui sont nées de la pollution des nitrates dans les eaux de rivière?
C'est à cause de l'azote des vaches. Si je dis pas de bêtises. Non, mais c'est vrai que moi, petite, il y en avait moins que maintenant. Quoi. Maintenant, tous les jours, il y a un tracteur qui passe et qui les enlève, hein, qui fait des tas et des tas.
C'est pas nouveau. Hein.
C'est pas nouveau. Hein.
Moi, j'ai habité en Bretagne il y a, je ne dirais pas combien de décennies, dans cette région, puisque j'ai travaillé à Lannion, dans les Côtes du Nord. J'habitais au bord de la mer. Et c'était déjà le cas. C'est effectivement les élevages, certains élevages, qui crée cette pollution sur des littoraux qui sont plus sensibles que d'autres, hein, des estuaires.
Ouais.
Donc le phénomène n'est pas nouveau. Oui, on dit qu'il s'est étendu, mais enfin c'est toujours à cet endroit-là, comme par hasard, qu'on vient faire des livres ou qu'on fait des reportages et des films, même les algues vertes, que je vous conseille de voir d'ailleurs.
Tout à fait. Oui, il y a même une BD.
Mais il y a une BD qui vient de sortir aussi. Mais oui, c'est dû en partie à l'activité humaine, c'est vrai. Plus inquiétant est le phénomène des sargasses dans les mers Caraïbes, puisque tu as évoqué le pirate tout à l'heure, comment il s'appelle? Barbe Noire.
Barbe Noire. Hein,
celui qui mettait des pétards dans ses oreilles pour faire peur aux gens et qui s'armait avec des couteaux partout et tout ça. Ben, oui, dans la mer Caraïbe, moi je le sais parce que j'y navigue de temps en temps, le phénomène de ces algues et quand même des sargasses est très, très préoccupant. Moi, ce sont des endroits que j'ai connus, qui avaient des fonds marins exceptionnels. Il n'y a plus rien parce que les sargasses peuvent s'accumuler dans ces endroits-là sur plus de 2 mètres. Et donc, toute la faune et la flore en dessous...
Rappeler ce que c'est une sargasse?
Ce sont des algues qui dérivent. En fait, elles dérivent. On les rencontre en mer, en bateau. Ça s'appelait les sargasses parce que la fameuse mer des sargasses, qui est le poteau noir... fabriquer ce genre de voilà. Mais alors, d'après un spécialiste que j'ai vu la semaine dernière, simplement avec lequel j'ai parlé, donc de l'Ifremer, c'est en grande partie, alors c'est dû sans doute, ce sont effectivement les fleuves qui vont déverser un certain nombre de produits chimiques qu'on met dans l'agriculture et qui vont nourrir ces algues déjà. Voilà. Comme les algues vertes à peu près, mais ça vient surtout la pollution vient de l'Amazone, qui est quand même le plus grand fleuve du coin. Et pourquoi? Eh bien, quand on parle de déforestation, si on déforeste, tout le système, l'écosystème est complètement déséquilibré. Et donc énormément de choses vont partir à la mer. En plus, on va faire de l'agriculture intensive, on va y mettre tout un tas de produits chimiques, des engrais. Et puis ces engrais vont partir à la mer et puis ben, les sargasses vont se nourrir de ça. Donc elles se développent énormément. Oui, oui, bien sûr. Et c'est important parce que c'est un signe que la mer ne se porte pas bien. Elle étouffe quand même un peu.
C'est symptomatique, c'est sûr.
Oui. Et le réchauffement climatique joue bien sûr un rôle.
Complètement.
Oui. C'est normal, elles aiment bien la chaleur.
Ouais. Et oui, et oui.
Oui, il ne faut pas être triste. Hein.
ça va. Non, hein, mais c'est vrai que dès le matin, solutions. C'est quand même un peu engagé comme sujet. Mais
Ah ben, bah, la liberté des mers est engagée, parce c'est que la liberté des mers, c'est notre liberté. C'est la liberté de circuler sur les mers, d'abord. Et finalement, depuis des siècles, cette liberté est remise en cause tout le temps, systématiquement. On n'a pas inventé les bateaux de guerre pour. On a inventé les bateaux de guerre pour que la liberté soit garantie pour les gens.
Mais ok.
C'est pas garanti pour tout le monde.
Oui. Tout à fait, tout à fait.
Il y avait donc les bateaux des mers hein, qui étaient ceux des premiers, c'était les pirates alors, ou les navigateurs, les explorateurs. Il y a eu ensuite les industriels avec le pétrole hein, et tout ce qui est marchandises maintenant qui naviguent. C'est assez impressionnant parce qu'on voit justement des mastodontes de plus en plus grands sur ces mers, surtout au niveau même des passagers en fait. Hein. On arrive à avoir des bateaux de 7000 personnes, c'est énorme quoi.
C'est énorme, mais on en parlera après la pause musicale. Merci Anne à la technique de nous la lancer.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « sois prudent ». La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur, sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au port, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure. Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, c'est pas l'homme Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Tabarly, Brajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin. Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en arrondis de lapin.
Katchevan Ons FM. Vous écoutez Radio FM Plus. We'll be right back.
Non, finalement, il ne reste pas beaucoup de temps. Et non, il y a eu la pause musicale et on s'est un peu perdu. On s'est auto-mené en bateau, peut-être.
Exactement, c'est ça, j'ai envie de dire.
Il ne reste pas 10 minutes. Non, mais ça va, on va y aller.
Et donc voilà, je suis avec Jean-Marie Kies.
J'ai pas pris l'heure. Et je sais pas si 7h est à l'heure.
7h est à l'heure.
Parce qu'il est 9h51 sur l'horloge du studio.
C'est ça. Là. Et Erija, yes. Il est 9h50. Une minute d'avance. Tout à fait.
On est bien. Donc on est toujours avec Jean-Marie Kies, je crois.
Oui.
Oui, je suis là sur la mer. Magnifique. Très
bien. Et on écoutait Renaud.
Renaud et. Ah, j'ai omis l'erreur de ne pas prendre le titre. Le deuxième titre, c'était Over Something. Over, pardon ? Overphonic, me dit Yannon, technique. Buttersea, ça veut dire quoi, ça, Buttersea ? Si, c'est la mer, et butter, c'est un batteur de la mer.
Le beurre.
Butter, c'est pas butter, nous dit Yann.
Non, c'est batter.
Battery, like battery, maybe. Ah, d'accord, batterie de la mer.
Bah oui.
C'est logique, en plus. Très, très bien. Avant que je te laisse papoter, parce que je crois que tu as plein de flyers
oui,
et tout.
Oui, il y a plein, toujours plein de trucs qui se passent à Montpellier. On ne s'ennuie pas.
Est-ce que tu peux me faire passer le sel, non pas le sel de la mer, mais le programme du jour, s'il
le
te plaît.
Le sel de la vie,
pour
peut-être.
Qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe en ce mercredi.
Tout à fait. Ah non, mais oui, il est déjà derrière.
C'est vrai.
C'est la journée des enfants. Mercredi, c'est vrai.
Journée des enfants.
C'est vrai. Moi, j'avais école le mercredi matin.
Mais comment ça se fait ? T'étais où ?
T'es en Bretagne, c'est ça ? J'étais où ? Je crois que j'ai eu un peu école le mercredi matin ou après le samedi. C'était à Paris.
Moi, c'était le samedi, je me rappelle, j'avais le samedi. Après, ils ont arrêté. D'ailleurs, j'ai séché les cours. Alors voilà, c'est parti.
Mon père est tombé toujours deux semaines.
Madame Rivioni, ok, la dernière fois, j'étais parti à Marseille un samedi avec ma mère et j'ai marqué que j'étais malade. Et en fait, on était tous les deux malades avec ma sœur, soi-disant. Ouais. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait mis, une excuse vraiment nulle comme ça.
Ouais.
Et je crois que c'était genre un mal de tête, un truc comme ça. Et genre, ma sœur, elle a montré à sa maîtresse, à elle, mal de tête. Et moi, j'ai montré aussi mal de tête. Et elle m'a dit, dis donc, ta sœur aussi, elle avait mal de tête. J'ai fait, oui, elle me l'a transmis.
Oh là là, quelle rebelle.
Quel menteur.
Ça avait juste séché les cours.
J'avais séché les cours pour aller à Marseille.
Bon, le jour en vaut la chandelle, honnêtement.
Samedi matin, quand même.
Mais c'est vrai que moi, je séchais aussi beaucoup les cours.
Pour revenir au sujet, Marseille, grand port de Méditerranée, effectivement.
C'est pour ça qu'on en parle.
C'est pour ça qu'on en parle, bien sûr.
Tout est lié.
Ça a failli être la capitale, d'ailleurs.
Tout est lié, comme Montpellier.
Trop lié, Montpellier, trop parfois. On s'en passera, parfois aussi.
Merci donc journée des enfants, bonjour à vous les enfants, merci d'avoir lâché peut-être les Kellogg's et les dessins animés pour nous écouter sur le 91.0.
Vous nous régalez.
Vous nous régalez, clairement, c'est le cas de le dire. Deuxième partie du matinal, qu'est-ce qui nous attend ? Une playlist de ouf concoctée par notre charmi Stéphane.
Tout à fait.
C'est cool pour se mettre à danser, c'est bien aussi de danser, pour garder la forme et garder le smile. À 11h, Aréopage avec Thalie Bouly. Je ne sais pas si on est en direct, il y a un en direct avec... non, pas de direct Aréopage, ce ne sera pas en direct.
Mais
ouais, voilà. Bonjour à toi Nathalie, si tu nous écoutes d'ailleurs, on te fait des bisous, peut-être que tu es sur la route et que tu nous rejoins, on a hâte de te voir en real life. À midi, c'est programme ponctuel, ça c'est la surprise tous les jours, tous les mercredis. On ne sait pas ce qu'il y a, en fait, c'est des personnes qui proposent des choses, de temps en temps, on leur donne une heure de créneaux et ils font ce qu'ils veulent.
C'est
ça donne l'opportunité de proposer de nouveaux concepts et ça c'est cool.
La confiance règne.
On écoute quand même avant diffuser bien sûr, il y a du montage. Mais n'hésitez pas si jamais vous avez des envies, des idées, des choses à proposer, là la Radio FM Plus sert à ça. Et si on en parlait, c'est à 13h avec monsieur Jean-François Martinez. 14h, il y aura peut-être une émission Place aux Jeunes. Je ne sais pas si on en fait en ce moment des Places aux Jeunes. Mission locale, tout ça. Ouais, 3KD, surprise, surprise. Selec, c'est de la musique pop de type protestante. C'est super original. C'est Astrid qui fait ça. Astrid, d'ailleurs, qui était. Jean-Marie Kies, peut-être que tu as vu à la réunion des animateurs, Astrid. Voilà, moi, c'était à ce moment-là que je me rendais compte que c'était elle qui faisait ça. Et merci Astrid pour tes petites communications, Selec aussi sur les réseaux sociaux, de nous identifier à chaque fois. 17h, c'est nous dans le futur. C'est la rediffusion de votre matinale.
Ouais. C'est nous dans le futur.
C'est ça. Matinale partie.
Retour dans le futur.
Bonjour
en fait.
À Rija dans le futur. Bonjour Alix dans le futur.
Ouais. C'est vrai, hein.
Jalila.
Bonjour.
Jean-Marie. Que serons-nous ?
Oui.
Je ne sais pas.
Bonjour peut-être à ma maman du futur qui écoutera ça.
Aussi, c'est vrai. Peut-être. On vous aime, on nous aime, on s'aime. C'est important. Et on s'aime de l'amour.
Narcisse. qui se noie.
Il faut, ouais, totalement. Après la réduction de l'abstinence, blues vagabondage, rock and roll, et enfin la playlist, encore une fois, de notre cher Stéphane. On met la radio à fond, on se met à...
Danser.
Danser, oui, oui.
On dit tout à l'heure.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut faire sur Montpellier, Alix ?
Qu'est-ce qu'on peut faire sur Montpellier ? Eh bien, on peut... Alors, j'ai commencé ma promotion locale. Hein. Le vendredi 24 novembre, il y a un atelier d'initiation au stop motion avec l'automne du cinéma.
Trop
et
bien.
C'est où ? À la Gerbe. Donc, c'est gratuit sur inscription pour les 6-11 ans.
Ouais.
Et le soir, il y a la projection du film Renault 12 de Mohamed El Khatib au Carrousel.
Trop bien.
Bas, sympa.
Ce festival de cinéma est génial.
Ce festival de cinéma
est-ce que tu veux qu'on alterne ? On fait des
ouais.
Ping-pong, ping-pong d'actu.
Vas-y. Allez, bam, tu me tabasses avec quoi, là ?
Eh bien, moi, je te réponds avec... On est quel jour ? On est le 22 novembre, là, c'est ça ?
Oui, moi, je t'ai répondu par le
22. Boum, encore la gerbe.
Encore la gerbe, c'est partout. J'en ai la gerbe.
T'en as la gerbe, force d'en parler. On les... Je leur passe le bonjour, c'est les voisins, l'association La Gerbe qui fait plein de trucs avec les enfants et qui offre des espaces pour les associations. Mercredi 22 novembre à 14h, c'est aujourd'hui même, hein, les 17 fabuleuses aventures, atelier de création artistique sur les 17 objectifs de développement durable et la solidarité internationale. Et il y a donc une restitution d'atelier des enfants devant les parents et les gens du quartier à 16h. Voilà, c'est ouf, hein.
Okay,
à 14h,
bah
les enfants, ils y vont et à 16h, ils font une restitution.
Wow.
C'est très fort, ça. C'est très fort. Tentez de vous inscrire encore, c'est sûr, par téléphone.
Complètement.
Faut appeler par
téléphone. Si j'avais des marmots, je l'aurais fait.
Ouais. 06 24 76 06 25, 06 24 76 06 25 pour avoir la paix de 14h à 16h, 2h sans enfants.
C'est incroyable,
on dit pas non. Hein. Ah, on vous aime, les enfants, on vous aime, mais des fois, il faut que vous vous défouliez
un peu
loin là-bas. Les places sont limitées, pensez à appeler, c'est proposé par la compagnie Minibus, les 17 fabuleuses aventures atelier de création aujourd'hui, mercredi 22 novembre à 14h, du côté de la Gerbe.
Alors, dingue. Alors moi, c'est plus le samedi 25 novembre que j'ai une info croustillante. Le somnambule à Gignac, une voix suave, donc c'est ça fait.
C'est de la musique, ça.
C'est de la musique, exactement. C'est de la musique, c'est le prospectus du département de l'Hérault.
Ça fait, c'est l'artiste. Ouais.
C'est comme ça qu'on dit,
c'est pas j'espère. Rien à voir avec Christophe Maé. Ça fait mal
quand on s... non.
De vivre sans non.
C'est ça qu'il est...
La ref de Christophe Maé.
Il est out, hein, Christophe Maé, un peu. Une voix suave, aux saveurs d'Orient, mêlant tradition et modernité, Sabrina Kefa fusionne la langue et la culture. La Darija arabe algérien se mêle au français et la musique du voyage de la black music à l'oriental en passant par la chanson française et le rock. Il y a un DJ set également. En fait, la soirée est longue.
Ah.
Il y a Tanga on the Selenite après. Et il y a DJ set LW2.
Ah ouais.
Voilà.
C'est complet. LW2, d'ailleurs, elle était au Festival Dernier Cri.
Ah ouais.
Dont on avait parlé il y a quelques temps. On a reçu même et tout le festival ici. Et,
ok,
et
ouais,
en fait, elle est partout. Quoi. C'est une DJ locale.
J'oublie le.
Avec le monsieur Lucas.
Tu as des 13 vents.
Avec le théâtre des 13 vents,
dernier cri,
peut-être également. Ouais.
C'était à des 13 vents, dernier cri.
Il y a eu plusieurs. Après, il y a plusieurs lieux pour le festival, donc
ouais,
possible.
C'est vrai, ouais. C'est vrai.
Je t'avoue, je mélange un peu tout. Mais n'hésitez pas à écouter le podcast qui est encore sur le site radiofmplus.org.
Ah, toujours là pour placer sa pub, Richard. Ouais, on perd pas le nord.
Non, il faut pas. Tout est lié. FM Plus vous propose plein de belles choses. Il nous reste une minute, je crois, mon cher
oui,
Yann.
Oui, parce que là, on avance.
C'est vrai, le temps passe. Peut-être pour placer quelque chose ou pas. Non, il y a on a encore une petite information. Une information courte aujourd'hui également. Vernissage d'une exposition artistique Artera, mercredi 22 novembre, 18h30, salon de la MRI. Et ça, c'est proposé par nos copains de la MTMSI, que vous entendez de temps en temps. C'est la maison des tiers-mondes. Des territoires.
Des tiers-mondes, ça craint. Ouais,
maison
si
des
jamais,
territoires
hein.
Du monde, de la solidarité internationale. Merci Yann, c'est que le nom a changé il n'y a pas longtemps.
C'est comme ça, maison des tiers-mondes, c'est chaud quand même.
C'est pas fou, ouais.
C'est comme maison des puissances émergentes.
Émergentes. Je te laisse conclure, merci tout le monde.
Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Réja, merci Jamila,
merci à vous.
Jean-Marie Kies, merci Yann à la technique et merci à vous de nous avoir écoutés.
Bisous.
Au revoir, bonne journée. Bonne journée, bonne route et bon travail.
Etc.
Bon, etc. Et jusqu'à ce que mort s'en suive.
Jusqu'à ce que mort s'en suive.